Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Fréquence Mistral pour cette émission Un moment pour la Terre, une émission donc proposée par France Nature Environnement. Et aujourd'hui, nous avons donc Pierre Frappa avec nous pour nous parler de la biodiversité. Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous demander de vous présenter un petit peu, puisque vous êtes passionné d'entomologie, c'est ça ?
C'est ça, oui.
On va rappeler un peu votre parcours pour venir nous parler de la biodiversité.
Alors mon parcours, bon, je vais abréger parce que sinon ça serait un peu long. Je suis entomologiste, c'est-à-dire que j'étudie les insectes en particulier, mais c'est une branche de la biologie et de l'écologie. Donc c'est l'étude, donc je répète, l'étude des insectes de façon générale, mais en même temps on est toujours un peu spécialisé là-dedans, parce qu'il y en a des insectes, il y en a tellement que c'est impossible de tout connaître dans ce domaine-là. Voilà. Alors, mais c'est surtout ce qui m'intéresse le plus dans cet aspect-là, c'est en fait les relations entre les animaux, les plantes, leur écosystème en général, ce qui est l'objet même de l'écologie, hein, l'écologie scientifique. Voilà. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant de nombreuses années, en particulier dans le cadre, depuis une quinzaine d'années, jusqu'à l'année dernière, puisque je suis à la retraite depuis l'année dernière, dans le cadre du parc naturel régional du Luberon. Voilà, donc aujourd'hui, je suis aussi administrateur de plusieurs associations, non seulement de France Nature Environnement 04, mais aussi d'associations naturalistes qui travaillent en particulier sur les insectes.
Alors aujourd'hui, le thème choisi, c'est la biodiversité. Alors c'est un mot dont on entend parler depuis quelques années, avec le développement durable. Qu'est-ce qu'on entend par biodiversité et en quoi c'est important de préserver cette biodiversité ?
Alors, la biodiversité, c'est un mot un peu, enfin, ce qu'on appelle vraiment un mot valise, quoi, hein, qui a été conçu sur la base qui a été inventé, je dirais, sur la base d'un terme anglais qui veut dire en fait diversité biologique. C'est la condensation, en quelque sorte, de ces deux mots. Donc, en fait, la question, c'est que ça regroupe beaucoup de concepts différents, en fait. Hein, ça n'est pas simplement un catalogue d'espèces. On a souvent tendance à dire voilà, la biodiversité, c'est voilà, il y a 3000 espèces, ça fait voilà, la biodiversité. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a plusieurs échelons, il y a plusieurs niveaux. Hein, c'est-à-dire, c'est à la fois un niveau génétique, hein, c'est-à-dire la diversité des gènes à l'intérieur d'une même espèce. Hein, donc, la diversité des à l'intérieur de l'espèce humaine, par exemple, hein, pour prendre cet exemple-là, on la voit tous les jours, puisqu'on a une seule espèce, mais chaque individu, on le voit, est différent. Donc ça, c'est aussi la biodiversité. On a le même type de variabilité, à l'intérieur de chacune des espèces animales et végétales, hein, et des champignons, puisque les champignons sont un autre groupe encore. Hein, donc ça, c'est un premier niveau, un niveau génétique. Il y a un deuxième niveau, qui est un niveau des espèces. Alors ça, c'est celui qui est le plus connu. Hein, c'est celui que, voilà, on a un certain nombre d'espèces qui vont présenter, constituer une biodiversité spécifique. Et puis, on a un troisième niveau, qui est le niveau des écosystèmes. C'est-à-dire qu'en fait, on a, quand on a un paysage, on a un certain nombre d'éléments distincts, qui vont chacun compter un certain nombre d'espèces qui ne seront pas les mêmes que dans l'ensemble voisin. Hein, vous avez côte à côte une forêt et une prairie, par exemple. Vous avez dans la forêt et dans la prairie des espèces qui ne sont pas les mêmes. Et donc la biodiversité, c'est aussi l'assemblage hein, de ces différents éléments et les relations qui vont y avoir entre eux. Mmh. C'est-à-dire que chacun de ces éléments n'existe pas, je dirais, en quelque sorte, pris individuellement. Il n'existe que dans les relations qu'il a avec ses voisins. Voilà. Donc la biodiversité, c'est tout ça, en même temps. Hein, alors on voit que c'est ce qui règle quotidiennement notre vie, quoi.
Alors, les fonctions de la biodiversité, on parle de biodiversité patrimoniale, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un terme un peu... c'est un terme relativement récent et très, très anthropomorphique, quoi, hein, très, très centré sur l'homme. les fonctions. Alors il y a deux choses différentes. Les fonctions de la biodiversité. Il faut distinguer d'ailleurs deux choses qu'on a tendance très largement à confondre, qui sont les fonctions de tel élément de la biodiversité et ce qu'on appelle aujourd'hui les services écosystémiques. Hein, les services, par exemple, vous avez, je prends cet exemple-là, bon, je ne sais pas s'il est bon, mais on va prendre celui-là. Les moustiques ont pour fonction de nourrir les hirondelles.
C'est leur fonction.
C'est une
fonction.
Ils
sont nés pour ça.
C'est une fonction. Oui. C'est une fonction. Ils n'ont pas que celle-là. Mmh. Ils ont celle-là. Donc, mais par contre, ça ne nous sert à rien, au contraire. Mmh. Par contre, on va dire que les hirondelles ont pour fonction de réguler les populations de moustiques. Mmh. Ça, c'est à la fois... C'est une fonction, mais c'est aussi un service. C'est un service qui nous est rendu. La notion de service écosystémique est très anthropocentrée, si je peux utiliser un terme un peu savant, hein, centrée sur l'homme. Hein, on est toujours dans ces... Alors, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup des services écosystémiques, parce que c'est les services que nous rendent les écosystèmes, les services que nous rend la nature, les services que nous rend la biodiversité. Hein, la régulation de l'érosion par les arbres, l'épuration de l'eau par tout un cortège d'espèces animales et végétales, etc. Voilà, donc ça, c'est pour ça qu'il faut arriver à distinguer cette notion de service et cette notion de fonction qui peuvent se retrouver sur un certain nombre d'espèces ou d'éléments, mais qui sont pas qui doivent être qui sont distinctes en fait. Voilà. Alors, donc sur la biodiversité patrimoniale, enfin on parle souvent d'espèces patrimoniales, c'est-à-dire là on est dans une vision beaucoup plus restrictive. Hein, c'est qu'il y a un certain nombre d'espèces qui sont considérées comme étant des espèces rares, qui au même titre que des éléments d'ordre culturel, hein, une cathédrale, un château, etc., sont considérés comme des éléments du patrimoine humain. Certaines espèces qu'on va considérer, dont on constate qu'elles régressent ou qu'elles sont menacées, etc., sont considérées comme patrimoniales parce qu'elles appartiennent au patrimoine commun d'humanité. Hein, alors c'est les éléphants, c'est les lions, c'est... mais plus proche de nous, c'est aussi les chamois, les bouquetins, le loup aujourd'hui, hein, pour beaucoup, est considéré comme, pour certains, il va être considéré comme une espèce nuisible, mais par d'autres, comme une espèce patrimoniale. Bon, moi, j'ai mon point de vue là-dessus, mais bon, c'est peut-être pas forcément l'endroit pour aller plus loin là-dessus. Mais donc, cette notion d'espèce patrimoniale est aussi extrêmement anthropocentrée, et fait l'impasse sur l'immense, le domaine immense que représente l'ensemble de la biodiversité, l'ensemble des espèces animales et végétales. Voilà, alors donc on va l'employer de façon un peu prudente, quoi, je dirais, plus comme un outil de sensibilisation et d'explication. C'est pas un concept scientifique. Il n'est pas forcément, d'ailleurs, opérationnel, je dirais, du point de vue de la protection.
Alors, par exemple, on parle de biodiversité patrimoniale. Vous parlez des éléphants. Au niveau des insectes, par exemple, ce serait quoi les...
Alors, on a aujourd'hui des espèces dont on va parler. C'est, on a beaucoup parlé au moment du pic-prune, qui a fait beaucoup parler de lui. C'est une grande sauterelle qu'on appelle la grande devineresse ou la saga pédo, hein, qui est pour son nom scientifique. C'est le grand capricorne. Ce sont souvent des espèces de grande taille, spectaculaires. C'est beaucoup de papillons, hein, des libellules, parce que ce sont des espèces qu'on voit, qui ont une bonne image, je dirais. Hein, mais ce ne sont pas forcément, ce ne sont pas toujours des espèces qui ont une grande importance, je dirais, dans l'écosystème, qui ont une place... chacune a sa place, hein, chacune est irremplaçable, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Chaque élément de la biodiversité est irremplaçable, mais dans le, on se rend compte que beaucoup d'espèces, puisqu'on parle des insectes, beaucoup d'espèces de très petite taille que personne ne voit, ont en fait un rôle ou une fonction extrêmement importante, notamment par exemple dans la vie des sols. Mmh. Mmh. Ou dans l'épuration des eaux. Là, on est dans des, sur des espèces que le commun des mortels n'a même jamais vues, ne soupçonne même pas l'existence. Donc c'est un peu tout ça qu'on appelle aussi, on oppose un peu artificiellement, mais la biodiversité patrimoniale et une biodiversité ordinaire, hein, qui est celle du quotidien. Et ça, c'est une des questions sur lesquelles on reviendra peut-être un peu plus tard. C'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les menaces pèsent autant sur la biodiversité ordinaire, même sur les espèces communes, que sur la biodiversité, je dirais, exceptionnelle ou patrimoniale.
Alors justement, dans notre département, on parle d'une très belle biodiversité. On a beaucoup de papillons, plein d'espèces... quel est le bilan sur le département?
Alors, bilan sur le département. Alors, en fait, le département est effectivement un département extrêmement riche, notamment du fait de sa diversité. C'est-à-dire qu'on part dans la région de Manosque sur des milieux qui sont extrêmement méditerranéens, hein, avec beaucoup de forêts de chênes verts, des milieux des landes méditerranéennes, des milieux très méditerranéens. Et on va jusqu'à la haute montagne, hein, dans la vallée de l'Ubaye. Donc ce gradient-là induit une grande biodiversité, une grande diversité d'écosystèmes, mm-hmm. Donc une grande biodiversité aux différents échelons dont je parlais tout à l'heure. Hein, voilà, donc c'est ce qui fait... alors après, quand on a dit ça... Comme partout, on a une aujourd'hui malheureusement une perte sur l'ensemble de la gamme. Par exemple, on entend souvent dire, on dit souvent, mais regardez, les papillons, on voit plus autant de papillons qu'autrefois. C'est tout à fait juste. Mmh. Hein, alors on se rend compte là. D'ailleurs, il y a eu une étude récente du WWF. Qui montre que, en fait, toutes les espèces régressent, et notamment des espèces communes, hein, même des espèces communes. Alors, quand on dit on voit moins de papillons, ça ne veut pas... C'est une réalité scientifiquement constatée. Ça ne veut pas dire que beaucoup d'espèces ont disparu. C'est-à-dire que ce qui régresse au moins aussi fortement que le nombre d'espèces, pour le moment peut-être même plus fortement encore, c'est les populations, c'est-à-dire le nombre d'individus de chacune des espèces. Et c'est peut-être même encore plus dramatique que la disparition d'une espèce, parce que ça veut dire que tout l'écosystème est perturbé. Actuellement, aujourd'hui, par exemple, on voit la disparition des papillons a pour l'une de ses conséquences la diminution... des populations d'espèces d'oiseaux qui les consomment, mmh. puisqu'ils ont moins à se nourrir. Les nichés de beaucoup d'oiseaux réussissent moins bien. Donc il y a un effet cumulatif là, qui fait que les populations d'oiseaux baissent aussi. Hein, alors c'est, le seul cause n'est pas la baisse des papillons, donc de leurs ressources alimentaires, mais c'est un des éléments importants. Hein, voilà. Donc on a cette diminution des populations est peut-être l'un des éléments les plus graves. Parce qu'on va avoir, au bout d'un moment, les espèces commencent effectivement à disparaître. Mmh. On n'en est pas encore arrivé là pour la plupart des espèces, mais c'est une perspective qui n'est pas du tout à écarter dans les décennies ou dans le siècle qui vient, quoi.
Alors, juste une question par rapport aux hannetons. Moi, je viens de Nancy, je me rappelle, oui. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait beaucoup de hannetons sur nos pare-brises de voiture. Est-ce que c'est Frédéric May qui chantait « Il n'y a plus de hannetons ». Est-ce que c'est une insecte
réalité.
En disparition?
Alors, en voie de disparition, il n'est pas sur la liste des espèces en voie de disparition, a priori. Mmh. Hein. Et c'est vrai qu'à certains endroits, on en trouvait des quantités éventuellement relativement importantes. Mais par contre, ça fait partie de ces très nombreuses espèces qui étaient autrefois des espèces banales dans les milieux dans le milieu anthropisé où on les rencontrait souvent. Mmh. Et aujourd'hui, ce sont des espèces qui n'ont pas disparu, mais qui ont très fortement régressé. Moi, par exemple, pour prendre cette, puisque vous parlez du hanneton, hein, mm-hmm. il y a plusieurs espèces, mais pour parler du hanneton commun, qui était une espèce qu'on trouvait très couramment dans des milieux, dans les jardins, puisqu'en fait, il se développe dans le sol, hein, au dépens des racines d'un certain nombre de plantes. Alors, il est considéré comme une espèce nuisible. Mm-hmm. Hein, donc, il a été aussi la cible d'un certain nombre de produits pour l'éliminer. Bon, parce que c'était, et ça a marché.
Hein,
puisqu'en fait, on en voit plus qu'il n'y en a plus. Sauf que moi, par exemple, il y a quelques années, j'étais sur les crêtes de la montagne de Lure. On est dans un milieu là, naturel, etc., où il y avait effectivement, alors c'était certainement le moment de l'éclosion, et il y avait des centaines de hannetons. Donc l'espèce n'a pas disparu. Hein, elle est même localement abondante. Mais par contre, sa répartition, hein, c'est réduite à un certain nombre, à des espaces qui lui sont, dans lesquels elle ne subit plus. Hein, les pressions qui sont exercées, notamment par les activités humaines. C'est un bon exemple. Hein, on pourrait. Alors, un indicateur intéressant, vous en parliez sur le pare-brise de la voiture, hein, c'est effectivement, on peut compter le nombre de bestioles qu'on trouve écrasées sur le pare-brise aujourd'hui. Si certains ont de souvenirs, parmi les plus âgés, hein, de ce qui se passait, de ce qu'il pouvait y avoir il y a une trentaine d'années, le nombre d'espèces écrasées sur les pare-brises de voitures était beaucoup plus important.
Eh oui, c'est vrai.
Mm. Hein, voilà. Donc, parce qu'effectivement, toutes les populations d'insectes ont régressé. Quoi. Mm-hmm. À peu près toutes. Quoi. Sauf peut-être les mouches, la mouche domestique, et encore, je ne suis pas certain.
Est-ce qu'on fait une pause musicale?
C'est vous qui voyez.
Alors, on écoute François Béranger, c'est ça? Que vous avez choisi, par exemple. Et ça s'appelle...
Dans les arbres.
Dans les arbres. On écoute tout de suite et on se retrouve juste après, Pierre Frappin.
La gorge brûlée par les herbes illusoires, je verrai me barrant la route apparaître une maison. Elle sera chaude et douce, ronde comme un ventre, les fenêtres brillantes. De ces portes ouvertes s'échapperont des parfums, et je dirai, c'est ma maison. Des lieux façonne sur le sol, résonne sur les murs, se mêle à des voix dans une musique inouïe. Les muscles contractés sous la peau desséchée, comme des lames d'acier dans la vieille défensive. Dans la vieille défensive des combats quotidiens, se dénouent brusquement et font la fête au corps. Maison mère, maison femme, maison fille, maison vie, chacun de tes replis secrètement t'offert est un sourire serein. On y dit peu de mots, les regards se suffisent. Des mains fraîches en passant vous caressent le front. Vous caressent le front, vous relève une mèche. Vous quitte faire un lit blanc dans une chambre fraîche. Couché dans la pénombre, le temps n'existe plus. Le présent est tellement présent qu'il efface le désert de l'attente. Chaos des remords, la 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 la, fournaise des désirs. Il vous vient une force à tout recommencer, se lever, repartir. À transformer ce rêve en vraie réalité, et je dirais, c'est ma maison.
Voilà, c'était donc François Béranger qui nous chantait
Dans les arbres.
Et on retrouve Pierre Frappa pour cette émission Un moment pour la Terre autour de la biodiversité. Donc on a vu que beaucoup d'espèces pouvaient être en disparition. On va voir donc pour cette deuxième partie les moyens de protection de la biodiversité des espèces végétales et animales.
Oui, ce qu'il faut d'abord percevoir, c'est que on est dans une dynamique, je dirais, aujourd'hui, qui est un peu mortifère par rapport à la biodiversité, hein, c'est-à-dire qu'enfin, par rapport aux écosystèmes en général. Donc, alors, l'homme, depuis son apparition, il fait partie de la nature. Hein, c'est une erreur profonde de parler, d'ailleurs, comme on le fait souvent, et comme j'ai même tendance à le faire, hein, quelquefois, de parler de l'homme et de la nature comme deux entités distinctes. En fait, l'homme est dans la nature. L'homme est un animal. Hein. Il abrite d'ailleurs lui-même une biodiversité considérable. Hein. À la surface de la peau, dans notre tube digestif, on a des milliers et des milliers de bactéries qui font partie aussi de la biodiversité. Donc nous sommes un des éléments de la biodiversité. Donc on va parler plutôt de l'humain et du non-humain, par exemple, mm-hmm. hein, plutôt que de l'homme et de la nature. Voilà. Alors, donc, mais l'homme a une caractéristique dans le monde vivant, c'est que c'est certainement l'espèce qui est la plus capable d'adapter son environnement à ses besoins. Et donc elle fait ça depuis son apparition. Mm-hmm. Et ça se fait, pour une part, aux dépens des autres espèces. Et aujourd'hui, on est arrivé à un moment où, d'une part, on le sait, on s'en aperçoit, et on se rend compte aussi que l'évolution de ce système-là nous amène au risque de nous amener à un écosystème qui sera différent de celui qui a accueilli l'humanité. Donc c'est pour ça aussi que quand on parle de protection de la nature, peut-être le risque n'est pas tant, à mon avis, dans la disparition de la nature qui elle-même a pris exister à l'homme et très probablement
il survivra.
La question, c'est la protection de l'écosystème humain. Mm-hmm. C'est la question centrale pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, quand bien même, ça s'est déjà produit dans l'histoire de la Terre d'ailleurs, quand bien même 90% des espèces vivantes disparaîtraient dans les siècles qui viennent, la nature elle-même, la biodiversité, se reconstituerait complètement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Hein, donc on ne peut absolument pas savoir ce que ça se représenterait. Mais elle se reconstituerait. Sauf si on a vitrifié la surface de la Terre. Mmh. Hein. Bon, ça c'est une autre hypothèse. Quand même. Par contre, l'écosystème qui se reconstituerait ne serait peut-être pas forcément apte à accueillir l'homme. Donc aujourd'hui, les moyens de protection, il faut qu'ils s'adaptent, je dirais, qu'ils prennent en compte ce paramètre-là. Aujourd'hui, il faudrait mieux analyser comment aujourd'hui, quel est l'impact qu'on a. Parce que l'un des problèmes, on nous dit, c'est qu'en fait, on ne connaît pas. La part de ce qu'on ne connaît pas est plus importante que celle qu'on connaît. Mmh. Donc il faut être extrêmement modeste quand on fait des propositions aujourd'hui en termes d'aménagement, d'aménagement, et notamment d'aménagement de la biodiversité, enfin, de protection de la biodiversité. L'idéal est d'arriver à ce que les processus naturels puissent se perpétuer, je dirais, de la façon la plus normale, je dirais, possible. Mmh. Hein, donc, il faut voir que les espèces et les écosystèmes en général ont une capacité d'adaptation, de résilience, on dit en termes scientifiques, quoi, hein, extrêmement importante. Mais qui est quand même limité. Donc il faut jouer sur cette résilience-là pour voir comment laisser à la nature la possibilité, qu'elle garde la possibilité de s'adapter. Donc ça veut dire étudier d'abord comment ne pas faire. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a renversé la question en disant non pas... comment on va faire pour avoir le moins d'impact possible, mais comment on va faire pour réparer nos impacts. Hein, c'est une question très à la mode. Enfin, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais des histoires de compensation, etc. Et là, on est déjà dans quelque chose qu'on n'arrive pas réellement à faire, parce que la compensation, ça nécessiterait une meilleure connaissance quand on n'a pas. Donc on n'est pas capable de réparer ça. Donc il faut aujourd'hui...
Je croyais que vous alliez m'apporter quelque chose de très positif.
Et oui, mais je vais essayer d'y venir quand même. Parce que ça veut dire qu'il faut réserver aujourd'hui des espaces sur lesquels on va laisser libre cours, je dirais, au phénomène naturel. Mmh. Hein. Et dans les espèces dans lesquelles nous vivons, qui sont les plus artificialisées que d'autres... Hein, je dirais, alors si c'est une tendance, parce que c'est chaque fois qu'on a une action, se poser la question de savoir comment on peut faire pour minimiser l'impact de cette action. Mais il faut se poser la question avant de prendre la décision. Mmh. Hein, et ça, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. On dit on va faire, et puis une fois qu'on a décidé ce qu'on allait faire, on va voir comment on va réparer les bêtises qu'on a fait. Mmh. Voilà. Donc c'est un changement de paradigme, hein, de changement de perception de la nature qui est nécessaire aujourd'hui, plus nécessaire aujourd'hui qu'il ne l'a sans doute jamais été dans l'histoire de l'humanité. Quoi. Voilà. Donc ce que je veux dire là, c'est-à-dire qu'on est dans un carrefour. Hein, et c'est ça qui devient aujourd'hui le qui est un peu notre... qui devrait nous guider, quoi. Voilà. Mm-hmm. La prise de conscience de cette position dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire, quoi, l'irréparable.
Ben justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, comment faire la première chose, c'est effectivement, alors je disais tout à l'heure, qu'il puisse y subsister des espaces suffisamment importants où les processus naturels puissent se développer à plein. Je dirais. Hein, donc il y a beaucoup d'espaces dans lesquels on donc assurer à un certain nombre de territoires les plus divers possibles la préservation, je dirais, des influences qui peuvent être nuisibles. Et ensuite faire en sorte, et ça c'est une démarche qui a été entreprise il y a déjà quelques années, et qui traduite aussi dans les textes de loi, à travers ce qu'on appelle la trame verte et bleue, hein, c'est-à-dire faire en sorte aussi que ces différents ensembles-là puissent se connecter entre eux, hein, puissent avoir des échanges, hein, parce que la survie des animaux et des espèces, ils ont besoin de circuler, de se rencontrer. Mmh. Hein, des populations doivent se rencontrer. Donc, assurer cette circulation-là. Ça veut dire, par exemple, entre les villes, entre les agglomérations, s'assurer qu'il y ait bien des endroits où il n'y a pas de rupture. Hein, c'est par exemple, on parlait tout à l'heure en aparté des travaux qui doivent avoir lieu sur la...
Le long de la Bléone.
Il y a l'un des objectifs de ces travaux-là, c'est de rétablir une continuité dans la rivière. C'est-à-dire que les organismes aquatiques, et notamment les poissons, puissent remonter. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de seuils qui empêchent les poissons de remonter. Donc on est là, du coup, on a créé des obstacles à cette circulation. Donc aujourd'hui, on va essayer de supprimer un certain nombre de ces obstacles. Alors, après, ça a un certain nombre d'incidences sur ce qui va se passer. C'est qu'on va avoir la rivière qui va reprendre un certain nombre de phénomènes d'érosion qui vont reprendre, etc. Mm-hmm. Donc, il faut aussi prévoir ça de façon à ce que ça n'ait pas d'influence néfaste, hein, sur ce qui se passe sur les berges. Hein, voilà. Donc, on a des travaux annexes qu'on va essayer de... Voilà. Alors, donc... On peut faire ce genre de choses, mais il faut se poser la question chaque fois d'arriver à au mieux connaître les incidences que ça va avoir. On est toujours dans la recherche de la moins mauvaise solution, hein, dans ce contexte-là. Quoi. Voilà. Donc, alors ce qu'on peut faire aussi, puisqu'on parlait, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait aujourd'hui l'un des phénomènes ou des pressions qui sont exercées sur les écosystèmes, c'est lié aux questions de pollution, hein, notamment de pollution par des produits chimiques divers et variés. Quoi. Donc il faut arriver à faire baisser cette pression, à la fois dans les activités quotidiennes, mais aussi dans l'agriculture. Par exemple. Mm-hmm. Hein, voilà. Donc là, il y a des actions qui peuvent être entreprises par les acteurs de la vie courante, quoi. Mmh.
Quand on voit qu'on est les moindres médicaments qui sont avalés par l'espèce humaine, on n'arrive pas à supprimer ces traces dans l'eau, dans la terre. Enfin,
oui.
C'est quand même affolant, ça.
Ben oui, c'est pour ça que. Alors, on a dit à un moment, les antibiotiques, c'est pas automatique. Là. C'était un slogan médical. Et effectivement, alors, parce que l'effet des antibiotiques est direct sur la personne qui va les avaler, ou les animaux, parce qu'il y a une utilisation d'antibiotiques extrêmement importante dans l'élevage aussi. Hein. Mais il faut voir que ces antibiotiques, après, se retrouvent
dans la nature.
Dans la nature et qui continue à avoir une activité. Mmh. Donc c'est une autre raison pour laquelle il faut en diminuer l'usage, réserver cet usage à des cas absolument nécessaires, alors qu'aujourd'hui, ils sont utilisés comme adjuvants, même dans un certain nombre d'élevages, de façon tout à fait
excessive. Mmh. Hein, voilà. Alors, on peut prendre l'exemple des antibiotiques, mais les exemples sont légion, je dirais, hein, de cette nature-là. Quoi. Voilà. Alors, que faire? Vous voyez qu'on est sur des choses. Comment faire pour supprimer les antibiotiques? Mmh. Voilà, aujourd'hui, c'est déjà une question. Et sur chacun des produits, on va se poser la même question. Et il faut se la poser aujourd'hui. Mmh. On est à un moment où il faut se poser ces questions-là. Alors, c'est sûr que c'est pas très réjouissant, je dirais, d'une certaine façon. Mais bon, peut-être qu'on n'est pas dans une période très réjouissante, quand même.
Eh oui. Bon, donc il n'y a pas vraiment de solution. Ben, on en est à un stade où il faut se poser beaucoup de questions.
Il faut se poser beaucoup de questions. Il y a des solutions qui souvent nous dépassent, à notre échelle individuelle, quoi, hein. Mm-hmm. Mais en même temps qui nécessitent une prise de conscience de la société. C'est ce à quoi on essaie un peu de contribuer aussi. Hein, mais bon, voilà, on sait que c'est forcément limité. Notre audience est limitée. Enfin, je mm-hmm. parle d'audience mm-hmm. de la radio. Notre audience à nous, mm-hmm. hein, écologues, naturalistes, associatifs, etc. quoi, hein. Voilà, ça laisse un peu dubitatif.
Voilà. Est-ce qu'on termine avec... quel avenir pour la planète, donc Eh oui, par rapport, on peut aller plus loin que notre département, la déforestation, tout ça, ça a aussi beaucoup de conséquences.
Oui, alors, la déforestation, pour nous, elle n'est pas... Enfin, je sais que Martine Vallon a abordé la question de la forêt mmh. dans une émission antérieure. Nous, disons, en termes de superficie forestière, notre région et la France en général sont pas mal placées. C'est-à-dire qu'on a plutôt dans une dynamique hein, d'augmentation des surfaces forestières. La question, c'est qu'il faut arriver à définir qu'est-ce que c'est que la forêt. Et là, on entre dans un sujet qui est en pleine actualité d'ailleurs mmh. aussi, parce qu'il y a un gros débat là-dessus. Du point de vue écologique et environnemental, je dirais, la forêt, ça n'est pas une collection d'arbres. C'est pas parce qu'il y a des arbres qu'il y a de la forêt.
Ah bon.
La forêt, c'est un écosystème. Hein, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses espèces d'arbres avec des âges différents, avec beaucoup d'autres choses que des arbres, hein, à la fois au niveau végétal et au niveau animal. Voilà. Alors, donc, la forêt, c'est un écosystème. Enfin, ou c'est des écosystèmes, parce que c'est pas la même chose une forêt de pins et une forêt de chênes ou de hêtres. Voilà. Donc, on est effectivement dans une augmentation de la surface en arbres, mais pas forcément dans une augmentation, dans une dynamique d'augmentation de la forêt au sens écologique, au sens de la, parce qu'en fait... on a par contre un gros déficit en vieille forêt. Hein, donc en forêt avec des vieux arbres, avec, qui vont être beaucoup plus riches en biodiversité. Mmh. Une plantation de peupliers ou de pins, c'est un champ, c'est extrêmement pauvre. Mmh. Il y a très peu de choses dedans, à part l'espèce qu'on a plantée. Hein, tandis que dans une forêt, il y a des milliers et des milliers d'espèces différentes, à la fois végétales et animales.
Donc il faudrait planter des forêts avec des espèces d'arbres différentes.
Ben, oui, alors du départ...
Est-ce qu'on peut mélanger seulement des pins avec des chênes
Ben, ça se fait naturellement. Alors c'est-à-dire qu'en fait, il y a des dynamiques forestières. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand on a une... aujourd'hui, on a eu beaucoup de croissance de forêts qui a été liée à la disparition de l'agriculture. C'est-à-dire beaucoup d'anciennes terres agricoles se sont reforestées, mmh. se sont boisées. Mais ce sont des forêts jeunes, parce que voilà, la disparition de l'agriculture, c'est un siècle enfin, ou deux. Mmh. Hein, donc pour une forêt, c'est très jeune. Donc on n'a que de jeunes forêts dans ces conditions-là. Et souvent, cette dynamique forestière démarre sur les pins. Les pins, sont, au moins dans nos régions, sont des espèces pionnières. Hein, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des pins... Les pins vieillissent pendant un siècle ou deux, et puis petit à petit, il reconstitue un sol propice à l'apparition d'autres, d'une phase qui lui succède, qui va être une phase de feuillus, de chênes ou de hêtres ou d'autres choses. Et donc, c'est cette dynamique-là, elle est un peu au début. Mais il y a une période de transition pendant laquelle on a des chênes et des pins mélangés. Hein. Mais j'ai aujourd'hui aussi dans une optique où la forêt, c'est aussi une activité économique, hein, et une ressource dont on a besoin. Mmh. Hein, donc on va, à partie, exploiter certaines forêts pour faire du bois, du bois d'œuvre, pour faire du bois de chauffage, etc. La question, c'est qu'il faut arriver à trouver un équilibre entre l'exploitation de cette forêt et la préservation de zones de vieilles forêts où ce que je disais tout à l'heure, où la dynamique forestière et où la biodiversité forestière va s'exprimer à plein. Hein, et ça, ça passe par la préservation de surfaces suffisantes de ces vieilles forêts et aussi une économie forestière, donc une économie de bois au sens... Pas l'économie du bois, hein, mais une économie de bois. Mmh. Hein, voir comment aussi ne pas gaspiller le bois, hein, comme toutes les autres ressources d'ailleurs.
Et est-ce que ce serait positif, à un moment on entendait parler de planter des arbres qui ne sont pas d'ici, qui sont de pays lointains, qui poussent vite, parce qu'il y a des espèces d'arbres qui peuvent être intéressantes pour reboiser rapidement Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ce serait une solution aussi de...
Alors, ça dépend de quoi on parle. Mm. Parce que, en fait, par exemple, les eucalyptus, quand ils ont été plantés en grande quantité, pas tellement en France, hein, mm-hmm. Mais dans certains pays, ça a été relativement catastrophique.
Ah oui.
Parce qu'on est arrivé à des formations quasi monospécifiques d'eucalyptus qui ont remplacé le reste. Hein. L'implantation de nouvelles espèces demande une grande prudence. Je veux dire, elle n'est pas forcément mauvaise, mais elle demande une grande prudence. Il y a un autre exemple qui a été, à mon avis, un succès pour notre région en particulier, c'est le pin noir, hein, qui est très décrié par certains parce qu'on dit que c'est une espèce qui n'est pas d'ici, etc. Mais qui, en fait, s'est très bien implantée, a permis effectivement de reforester des zones qui avaient été très fortement impacté par l'activité humaine, et qui aujourd'hui, on s'aperçoit que... en tant qu'entomologiste, je constate que le pin noir s'est tout à fait intégré dans nos écosystèmes forestiers. Hein, c'est-à-dire que je trouve des espèces, des vieilles pinèdes méditerranéennes dans des forêts de pin noir. Mmh. Ce qui est, voilà, qui peut peut-être choquer certains, mais qui est une... certains scientifiques, mais qui semble être une réalité. Voilà. Donc, on peut arriver à avoir de bons résultats dans un certain nombre de cas. Mais en même temps, il faut voir aussi que, du point de vue écologique, on n'en a pas besoin. Sauf cas exceptionnel, peut-être. Mmh. Hein. On a déjà une ressource très importante dans les essences locales qu'on pourrait mieux utiliser et surtout laisser vieillir. Voilà, c'est surtout ça la question. Laisser vieillir certaines forêts et conserver des vieilles forêts.
Bien, eh bien, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Voilà. Pierre Papa, on va écouter « Quelle terre on laissera à nos enfants », c'est ça? Cette chanson donc, que vous avez choisie de « L'homme qui parle ».
Chacun ses problèmes, métro, boulot, dodo, toujours la même rengaine. Face à la routine de la vie quotidienne, on fuit la pression en cherchant de l'oxygène. On voyage vers différents paysages, où l'on s'évade en regardant les reportages. Le vague à l'âme de voir de si belles images, on a envie de chanter sur des percussions qui résonnent. Volontiers on s'abandonne, positive impression. Alors on s'en offre d'or.
La terre va droit au crash quand les pollueurs se lâchent. Les bateaux transforment en tâches pour des histoires de cash. Dans le fac à des machines, des fumées noires, des dioxines crachées par les tours des usines. Je rêve qu'une autre ère se dessine.
Quelle terre on va laisser au futur? regard sur la terre avant qu'elle succombe sous les assauts des bulldozers. De Kyoto au Grenelle, y'a de l'arnaque dans l'air, et c'est pas la faute à Voltaire. Respire un grand coup, une envie d'aventure, je pourrais vite y prendre goût au retour à la nature. Loin, loin, partir aux quatre vents, le sourire au coin des lèvres, je m'évade en chantant.
On se croit à l'apogée de la technique, mal bouffe toxique dans les champs, tous du flic. Laissez-nous respirer. On voudrait tant s'évader, mais le marchand de sable est passé. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Justement rien, c'est peut-être ça. On trie les déchets, mais c'est bien loin d'être parfait. Faut pas trop faire couler l'eau si tu veux ton diplôme d'écolo. On nous fait la morale pour mieux cacher les scandales. Les vrais pollueurs se régalent, le spectacle est total.
Voilà, l'homme qui parle, quelle terre on va laisser à nos enfants. Pierre Frappa, vous vouliez parler de compensation juste avant de nous quitter.
Oui, on en parlera
une prochaine émission peut-être.
Peut-être, oui, parce que là, j'avais deux ou trois annonces que je voulais faire.
Oui, allez-y.
Donc, le 1er décembre, il y a à Manosque la soirée de clôture de l'exposition sur la transition énergétique. Donc par FNE 04, à partir d'interviews d'habitants du bassin manosquin. Alors il y a à la MJC le 1er décembre à 18h30, il y a la soirée de clôture de cette exposition, qui est un événement public. Le lendemain, donc le 2 décembre, à Aix-en-Provence, alors là c'est une formation qui est en fait réservée aux adhérents de FNE PACA sur la nouvelle loi sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. À 14h, le 14 décembre à 18h à la médiathèque de Saint-Étienne-des-Orgues, il y a une conférence sur la déforestation en montagne de Lure, qui est co-animé par un des administrateurs de FNE 04, Pierre Honoré. Et le 2 décembre également, alors ça c'est une information qui n'est pas directement de FNE, mais qui est produite par l'association Attaque 04, il y a une projection cinématographique, un débat au Lido à Manosque, à 20h, avec le film qui directement en relation avec ce qu'on a dit aujourd'hui, qui s'appelle « La nature, le nouvel Eldorado de la finance ». Voilà. Et c'est aussi... Ça serait une bonne introduction pour l'autre sujet sur la compensation, dont on parlera plus tard.
D'accord. Je vous remercie, Pierre Frappa. Une bonne journée.
À vous de même.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.